Le journal Adiachi Poukou.
L'arrivée de la force de l'Union européenne en RDC de plus en plus proche. Une première équipe constituée des responsables de cette force prépare déjà le terrain à Kinshasa. L'équipe a visité ce jeudi la base militaire de Ndolo, lieu où cette force devra installer son état-major. Attaque la nuit dernière à Sake, à une trentaine de kilomètres de Goma. Plusieurs maisons ont été pillées. Les auteurs seraient, selon les habitants, des militaires ayant refusé dernièrement le brassage. Réouverture du trafic routier entre la ville de Kananga et le territoire de Kazumba. Les travaux de réfection de cette route sont maintenant finis. Cela devrait faciliter les échanges commerciaux entre plusieurs localités. Voilà tout pour les titres. Tout de suite, les détails. Bonsoir à tous. Le FOR, la force européenne qui doit participer à la sécurisation des élections en RDC, s'installe progressivement à Kinshasa. Une première équipe constituée d'une dizaine des responsables de cette force a visité ce jeudi la base militaire de Ndolo. Là, ils ont surtout visité l'un des espaces où cette force européenne doit installer son état-major. Le mandat de cette force est de 4 mois à partir du jour du début des élections. Les responsables de cette force se disent satisfaits jusqu'ici de la collaboration avec les autorités congolaises. Ils indiquent aussi que tous les travaux d'installation seront confiés à des entreprises congolaises. Le major Michel Comas, chef d'équipe de préparation EUFOR, est au micro de Dona Madimba.
La collaboration avec l'armée congolaise se passe parfaitement bien. Et si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce que nous avons l'honneur d'être accueillis par les forces armées congolaises sur cette base de Ndolo. Vous avez rencontré tout à l'heure le colonel Mozia, toute l'équipe très chaleureuse et nous aide beaucoup dans nos travaux d'installation.
Sur le plan logistique, décrivez-nous un peu comment les choses vont se passer. Comment se fera l'installation ici sur la base de Ndolo par exemple?
Alors, l'Union européenne souhaite un maximum s'appuyer sur les entreprises locales. Grâce à nos amis de la Fédération des entrepreneurs congolais, nous avons pu rencontrer bon nombre d'entreprises, notamment du bâtiment et des travaux publics, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir déjà des entreprises au travail sur la base de Ndolo.
Signalons que cette force de l'Union européenne sera aussi déployée à Njili. Antoine Gizenga appelle les militants du Palou à éviter les injures et les débordements pendant la campagne électorale. Le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié a fait cet appel dans son meeting organisé ce jeudi au siège du parti à Kinshasa. La rencontre avait pour objectif de préparer la participation du Palou aux prochaines élections. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Antoine Gizenga, des propos recueillis par René Capita.
Pour la période qui reste avant le démarrage de cette campagne électorale, je vous instruis tous, en ma qualité de chef du parti, de vous mettre au travail et de préparer les équipes de propagande du parti partout sur le territoire national. Préparons une campagne constructive, sans injure ni calomnie vis-à-vis de qui que ce soit. Une campagne de vérité et d'espoir pour le peuple congolais qui doit y retrouver des propositions de solutions réelles et crédibles aux différents problèmes vitaux qui le tourmentent.
Et puis cette mise en garde de la mairie de Kisangani à l'endroit des représentants des partis politiques, cette institution administrative s'insurge contre l'intolérance politique constatée dans le chef-lieu de la province orientale. Selon le maire de Kisangani, certains politiciens utilisent dans leurs discours un langage agressif, parfois teinté d'injures. Un tel comportement, déclare-t-il, est de nature à troubler la tranquillité et l'harmonie entre les partis politiques. Il promet des sanctions exemplaires aux politiciens qui violent le code de bonne conduite. Écoutons à ce sujet Gaspard Bosengue Akoko, maire adjoint de la ville de Kisangani.
Ils doivent respecter les codes de bonne conduite régissant les partis politiques et respecter la loi qui régit les manifestations publiques. Que les partis politiques, dans les meilleurs délais, puissent retirer leurs emblèmes dans les places publiques. Les emblèmes des partis politiques doivent se retrouver dans leurs sièges respectifs. Alors, ceux qui vont se compromettre, nous avons toutes les dispositions de la loi. Celui qui peut aller à la contre de la loi est passible d'une amende transactionnelle de 3 à 5 000 francs congolais ou plus et d'une servitude pénale de 1 à 3 mois, à part la répression que nous pouvons faire sur le terrain, ceux qui seront attrapés, nous allons mettre la main sur eux à travers la police nationale et nous allons les foutre au cachot. Les responsables de leurs partis politiques seront poursuivis par la loi.
Rendons-nous à Kalemi pour dire en bref que le président Joseph Kabila a tenu aujourd'hui un meeting au stade de Sendoué. L'essentiel de son message portait sur la polémique autour des négociations sur la tenue des élections. Devant la population de Kalemi, Joseph Kabila a encore affirmé qu'il n'y aura pas de négociations avant les élections. Il a aussi annoncé pour bientôt le désensablement du port de Kalemi. S'agissant justement du processus électoral, des cas de fraude dans les opérations d'enrôlement sont signalés dans le Bas-Congo. Selon Mme Carole Nkoy, première rapporteure de la Commission électorale indépendante, cette institution a déposé une plainte auprès des instances judiciaires de la province du Bas-Congo. Des personnes enrôlées deux fois, les étrangers ainsi que les hommes en uniforme vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Correspondance de Matadi avec Dani Kindanzita.
Elles sont au total 2100 personnes. Parmi eux, on compte 67 Angolais, un Rwandais, 12 Congolais de Brazzaville, un policier et 8 éléments de FRDC. Ces irrégularités ont été découvertes lors du toilettage devant permettre l'établissement des listes définitives au niveau de la Commission nationale de traitement de la CEI à Kinshasa. Selon Mme Carole Nkoy, premier rapporteur adjoint chargé des questions juridiques et contentieuses de la CEI, ces fraudes ont été décelées après l'opération de vérification des empreintes digitales, d'autre part dénonciation. D'après Maître Ntela, avocat général près la cour d'appel de Matadi, les personnes qui se sont livrées à ces actes inciviques seront poursuivies conformément à la loi. Signalons que le même dossier était déposé à l'auditorat militaire pour les hommes en uniforme. La loi prévoit une peine de 5 ans maximum pour les personnes reconnues coupables de ces actes. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa où l'ambassadeur de France en RDC, Georges Serre, a présenté le projet de création d'une école de formation des officiers de police judiciaire congolaise. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la Direction générale des renseignements et des services spéciaux de la police à Kinshasa. Fruit de la coopération française, cette école qui sera opérationnelle dès le mois d'octobre prochain disposera d'un laboratoire de police scientifique destiné à établir avec précision les preuves de culpabilité. Georges Serre explique les objectifs de cette école de formation des OPJ au micro de Axel Goncho.
Les officiers de police congolais se verront dotés d'un laboratoire de police technique et scientifique moderne qui permettra de les aider dans la résolution des affaires en exploitant les traces et indices de manière scientifique. Ainsi, il deviendra possible pour les magistrats d'imputer exactement les responsabilités pour les auteurs d'infractions.
Qu'est-ce que la France gagne à s'impliquer dans cette formation de la police congolaise ?
La France gagne à avoir, comme les autres pays de l'Union européenne, en face d'elle des agents de la police qui parlent le même langage, qui ont la même formation et qui sont capables de coopérer dans tous les domaines. Aujourd'hui, la mondialisation implique que tous les pays soient au même niveau en certains, dans les domaines les plus pointus. La police est un domaine très pointu et il faut qu'un grand pays comme le Congo ait aujourd'hui une police qui soit capable de traiter à travers Interpol, à travers les autres formations de coopération internationale, comme les autres polices.
Au Nord Kivu, plusieurs maisons ont été pillées la nuit dernière à Sake, à une trentaine de kilomètres de Goma. Les assaillants armés et en uniforme militaire sont désignés par les habitants de Sake comme des militaires ayant dernièrement refusé le brassage. Plus de détails avec Gisèle Cage.
C'est vers 23 heures que les assaillants ont lancé ces opérations de pillage à Sake d'après les habitants. Ceux-ci se sont déroulés dans le quartier Virunga et Mosquée, deux quartiers les plus peuplés de cette localité. Plus d'une trentaine de maisons ont ainsi été visitées par ces bandits armés qui ont emporté des chèvres, de l'argent ainsi que des téléphones après avoir tiré plusieurs coups de balles en l'air. D'après les habitants, ces bandits armés opéraient au nombre d'une vingtaine. Qui sont-ils exactement? Les victimes déclarent qu'il s'agit des militaires du 833e bataillon qui étaient basés à Sake et qui ont refusé samedi dernier de suivre la troisième phase de brassage au Nord Kivu. Depuis samedi dernier, en effet, ces militaires se sont retranchés à Karuba, à environ 9 km de la localité de Sake. D'après toujours les habitants, après leur forfait, les assaillants ont pris la direction du parc national de Virunga. En direct de Sake, Gisèle Cache pour la Radio Okapi.
Une autre attaque, cette fois-ci dans le sud Kivu, précisément à Kamakombe, dans le territoire de Kabaré. Une personne a été tuée et une autre blessée la nuit dernière. Selon l'administrateur du territoire, il s'agit d'une attaque de combattants hutu-rwandais. Toujours selon lui, les assaillants ont emporté plusieurs biens de valeur avant l'intervention des éléments de la 3e brigade intégrée basée à Kavumu. La situation humanitaire des populations de Bukiringi, une localité située à 25 km au sud de Abeba en Ituri, est alarmante. Les derniers affrontements intervenus dans le secteur il y a 2 semaines entre les miliciens et les FRDC appuyés par la MONUC coincent un nombre important des populations dans leur village. Le point avec François-Xavier Mibé.
Selon les agences humanitaires basées à Bunia, plus de 3 500 personnes vivent sans assistance confinées dans le village de Bukiringi. D'autres sources avancent même des chiffres de morts enregistrés parmi les populations par manque d'assistance. Malgré l'isolement géographique dans lequel se trouve Bukiringi, les agences humanitaires ne cèdent pas au découragement, ce que confirme Irène Schmid, chef de bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés à Ituri.
Pour nous, c'est un défi, mais ça ne va pas nous décourager. Les discussions sont en cours avec les agences humanitaires en mesure de faire ça. Et puis, bien sûr, la MONUC, qui nous appuie par rapport à l'assistance et les portées.
Par ailleurs, les autorités de FRDC affirment pour leur part que la sécurité est assurée aux populations. Quant à Bukiringi précisément, les éléments de la 6e brigade de FRDC s'occupent de leur encadrement. De leur côté, les autorités civiles affirment ne pas croiser les bras dans cette situation. Le commissaire des districts assistant en charge de l'administration, Mbichongeza, est confiant des démarches entreprises.
On saura toujours trouver une voie pour les atteindre. Nous tâcherons de suivre ces populations. Nous collaborons avec les agences chargées de la population. Si on ne sait pas les assister dans ces lieux-là, on peut leur demander de se déplacer dans une zone sécurisée.
Tous les acteurs devraient en savoir plus cette semaine. Une équipe des humanitaires projette une descente vers Bukiringi en prenant la route jusqu'à Abeba avant de se débrouiller par tous les moyens possibles d'atteindre les vulnérables de ces secteurs. De Bunia, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Nous venons d'apprendre à ce sujet que le Programme alimentaire mondial a réussi à acheminer il y a quelques heures 2 tonnes de vivres à ses déplacés, une assistance composée de farine de maïs, du sel, des haricots et des huiles. Selon un délégué du PAM en Ituri, une prochaine descente à Bukiringi est envisagée en vue d'amener encore au moins 15 tonnes de vivres pour ses déplacés. Bouclons cette page nationale au Kasaï occidental, c'est pour signaler la réouverture du trafic routier entre la ville de Kananga et le territoire de Kazumba. La réfection de cette route a été exécutée par le Bureau central de coordination et l'Agence des Nations Unies UNOPS. Elle facilite les échanges commerciaux entre plusieurs localités. Reportage Marie-Chantal Lumba.
60 km de route en terre ont été refaits sur le tronçon Kananga-Kazumba. C'est à partir de la localité Ngomba en passant par la mission catholique Tambwe-Kabundi. Cette route permet d'accéder également à Lunyeka, un centre minier situé dans le territoire de Chikapa. 3 ponts ont été réhabilités sur cette route sur les rivières Chibuyi, Kabukondo et Miaou. Selon Johnny Makwela, responsable du projet pour la partie INOPS, le trafic routier qui était nul est passé à 10 camions par jour. Pour les conducteurs, la réhabilitation met fin à un détour de 130 km pour se rendre à Kazumba. L'un d'eux affirme faire 2h30 de route au lieu de plus de 6 avant la réhabilitation. Les habitants déclarent qu'à présent, 3 grands marchés sont facilement joignables pour les échanges commerciaux. Le marché de Kabundi, de Kapayatingambi et de Chiswaka. Le BCECO UNOPS, en collaboration avec les autorités locales, ont installé et équipé un comité d'entretien des routes. Ce comité composé des habitants sera encadré pour le maintien par la direction des voies des dessertes agricoles. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
2 titres en page internationale. Le président tchadien Idriss Déby, réélu en mai pour 5 ans lors d'un scrutin boudé par ses adversaires, a demandé ce jeudi à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec tous les partis politiques de l'opposition tchadienne. D'après un communiqué officiel de la présidence tchadienne, le président Déby veut reprendre le dialogue pour ramener un climat politique sain et serein au Tchad. Et puis l'ambassadeur américain à Bagdad, Zalmay Khalilzad, a lancé jeudi une mise en garde contre d'éventuelles représailles en Irak après l'annonce de la mort du chef terroriste Abu Moussab al-Zarqawi. Tout en se félicitant de cette bonne nouvelle, l'ambassadeur a souligné que la mort de Zarqawi ne signifiait pas une fin rapide des attaques des insurgés, ni des opérations terroristes ou de l'insécurité pour les civils. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiookapi.net. Okapi.